On commence notre émission avec un segment double ce midi. Durant la première demi-heure, on va parler culture et inclusion sociale avec deux invités qui ont à cœur la participation des personnes handicapées. On met en lumière les initiatives d'une institution du quartier Centre-Sud de Montréal, l'Écomusée du Fiers-Mondes, située sur la rue Amherst à quelques rues de Vuzévoie. Ce sera aussi l'occasion de souligner notre coup de chapeau de la semaine en discutant de l'exposition d'un œil différent qui aura lieu du 2 au 17 mars 2016. J'accueille en studio Mme Geneviève Guibeault du comité organisateur d'Un œil différent et René Binette, directeur de l'Écomusée du Fiers-Mondes. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Merci.
Tout d'abord, Monsieur Binette, on va commencer par présenter l'Écomusée du Fiers-Mondes à nos auditeurs.
Oui, alors l'Écomusée, comme vous le disiez, se trouve sur la rue Amherst, un peu au nord d'Ontario. Dans un ancien bain public, une ancienne piscine publique qui date de 1927, un bâtiment qui est magnifique d'ailleurs. Donc, la mission de notre musée, on pourrait dire qu'on se définit comme un musée d'histoire et un musée citoyen. Alors, d'une part, on raconte l'histoire du milieu dans lequel nous nous trouvons et il s'agit d'un vieux quartier industriel et ouvrier. Donc, on raconte dans notre exposition permanente la trajectoire, pourrait-on dire, de la vie quotidienne dans un quartier ouvrier, l'histoire du Montréal populaire, pourrait-on dire. Mais musée citoyen aussi parce que toute la question de la démocratie culturelle, de l'inclusion des différents publics et de la participation, ce sont des enjeux qui nous tiennent à cœur.
Et que vous développez avec différents projets, dont celui d'un œil différent, dont on va avoir l'occasion de parler en détail durant l'émission. Je voulais revenir sur ce nom. Écomusée du Fiers-Mondes, c'est très évocateur, mais qu'est-ce que ça signifie?
Bien, le Fiers-Mondes, en fait, et ça a été donné dès à l'origine de la création de l'organisme, c'est l'idée que dans ce milieu qui est, comme je le disais, un vieux quartier ouvrier, souvent c'est un quartier qui était dévalorisé, à qui on accolait différentes étiquettes. Et les gens disaient, bien, on veut valoriser ce quartier, on veut créer la fierté dans le quartier, d'où le nom l'Écomusée du Fiers-Mondes. Alors, ce nom de Fiers-Mondes, c'est au début des années 80 que ça avait été adopté de cette façon-là. Un des objectifs, c'est de créer la fierté dans le milieu.
Et je crois que jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Vous avez vraiment une préoccupation pour ce qui est de l'inclusion sociale, de la participation aussi des groupes marginalisés. Donc, vous travaillez à différentes expositions pour mettre en valeur les citoyens de Centre-Sud, mais aussi, on pourrait dire, des Montréalais, des Québécois en général.
Oui, c'est-à-dire qu'on a un fort ancrage dans le quartier, mais nos activités s'adressent à l'ensemble des Montréalais et on parle d'une réalité qui est montréalaise, pourrait-on dire. Alors oui, pour nous, la démocratie culturelle, c'est important, c'est-à-dire qu'on veut que les gens viennent à nos activités, mais pas seulement comme des visiteurs, mais aussi comme des participants aux expositions et aux activités. Alors, on fait différents projets avec des groupes assez variés, entre autres avec des analphabètes, mais dans le cas d'un œil différent, c'est avec les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou, en fait, on dit DITSA, mm-hmm. Hein, je veux dire, toute la question de l'autisme, le spectre de l'autisme. Alors, donc, c'est avec plusieurs partenaires, hein, parce que d'un œil différent, ça regroupe plusieurs partenaires, on y reviendra tout à l'heure. Alors, donc, pendant deux semaines, on offre non seulement une exposition, mais toute une série d'activités qui permettent à ces personnes de venir non seulement comme des visiteurs, mais ils sont des participants aux activités, ils sont des exposants à l'intérieur du musée. Ce qui, je pense, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'empowerment, au niveau de la valorisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en même temps qu'on fait ça, tout ça est dans une très grande qualité. C'est-à-dire que on est quand même dans un niveau muséal, pourrait-on dire. Alors, c'est tout à fait, comme je le disais, valorisant pour ces personnes.
Madame Guibeault, justement, cet événement d'un œil différent coïncide avec la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui aura lieu du 13 au 19 mars 2016. Présentez-nous l'activité dans ces grandes lignes.
D'un œil différent, bien, c'est pas seulement une exposition. Souvent, c'est appelé l'exposition d'un indifférent, mais c'est presque, mettons, un petit festival. Ça ressemble à un petit festival parce qu'il y a une... C'est vrai que l'exposition, c'est la majeure parce qu'on a pas loin de 200 artistes. On est en train de les compter, la finale. Là, on a presque 200 artistes ou peut-être plus qui exposent des œuvres.
On parle d'art visuel.
D'art visuel, oui. Fait que ça donne... c'est sûr que c'est une très grosse exposition. Il y a des artistes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, mais on a aussi des artistes qui n'en ont pas. C'est un peu le propre de donner différent, c'est qu'on veut que ça soit mixte. On veut mélanger les gens. On veut mélanger les artistes pour qu'il y ait des échanges.
Mm-hmm.
Fait que ça se veut dans l'exposition d'œuvres d'art, mais aussi dans toute la programmation. On a une programmation qui dure 2 semaines, comme disait M. Binette.
Et, oui, parce que ça commence le 2 mars, le coup d'envoi.
Oui, la semaine prochaine.
Et justement, je reviens à vous, M. Binette. Donc, il y a à la fois ces expositions, ces activités qui ont lieu au musée. Qu'en est-il de l'accessibilité physique du musée, des lieux?
Bien, c'est-à-dire que d'une part, si on parle d'accessibilité, peut-être la première chose, c'est que pendant les 2 semaines, l'entrée est gratuite. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à souligner aussi, c'est-à-dire que pendant ces 2 semaines-là, ben voilà, c'est porte ouverte pour tout le monde, voilà. Pour ce qui est de l'accessibilité, si on parle de personnes qui seraient, par exemple, des personnes âgées ou à mobilité réduite, mm-hmm. ben nous, on a, c'est ça, le bâtiment, il est aux normes, si on peut dire, pour que des personnes en fauteuil roulant ou autre chose puissent avoir accès à l'ensemble des activités. Alors donc, ça, c'est quelque chose qui existe. Mais j'ajouterais comme peut-être un autre niveau, c'est au fond, l'accessibilité, c'est pas seulement une question de coût ou une question de monter les escaliers, si je peux dire. C'est aussi, bien sûr, une question de comprendre ce dont on parle. Hein? Alors, et on pourrait dire qu'on parle parfois de médiation culturelle. C'est un formidable exemple de médiation culturelle. Alors, les gens, et on y reviendra sur la programmation, mais il s'agit justement d'œuvres et d'activités qui sont accessibles à tous. Et il y a des gens, lors de certains moments, qui nous accueillent, qui nous présentent des choses, qui nous font des démonstrations, qui nous font participer. Même le public va participer à un certain nombre d'activités. Alors, en ce sens-là, on sera pas faussement modeste. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment un très bel exemple de médiation culturelle, de démocratie culturelle, c'est-à-dire l'idée que tout le monde a une culture, tout le monde peut s'exprimer et un musée peut ouvrir ses portes aux gens pour qu'ils viennent parler de leur création et exposer leur création.
Justement, on parle du moins durant l'événement d'un œil différent, l'entrée est gratuite. Le reste de l'année, est-ce que les personnes à mobilité réduite qui viennent accompagner, est-ce que l'accompagnateur peut bénéficier d'une entrée gratuite?
Oui,
parce que souvent, ça a un impact sur la consommation culturelle des gens.
Oui, c'est-à-dire que pendant les 52 semaines de l'année, bien sûr, ben, d'une part, il y a des prix de groupe. Quand les groupes nous contactent à l'avance, il y a un prix. Et effectivement, les accompagnateurs ne payent pas. Mais aussi, lorsque les groupes s'annoncent, ben, on essaie de leur faire un accueil spécial, une animation spéciale. Mm-hmm. Hein? Je veux dire, on a un souci de que le public... Évidemment, le public individuel, on ne peut pas faire des visites guidées ou des activités spéciales pour chaque personne qui vient, mais lorsque c'est un groupe, c'est une chose qui est importante pour nous.
Donc, justement, les besoins particuliers des visiteurs sont pris en considération. On parle vraiment aussi, non seulement de l'accessibilité des lieux, accessibilité financière, mais aussi d'un service d'accueil qui est sensibilisé à ça.
Oui, et je dirais que ça va tout à fait dans l'idée de, je vous le disais tout à l'heure, du musée citoyen.
On va revenir brièvement sur certaines expositions ou certaines activités que vous avez eues dans les dernières années qui concernaient justement ou en fait la participation de différents groupes de personnes en situation de handicap. Il y avait entre autres l'événement Chute, regardez la déficience autrement qui abordait aussi la question de la déficience intellectuelle en 2013. Donc, c'est pas nouveau finalement pour vous d'inclure les personnes handicapées?
Oui, nous, on a, comme je vous le disais, une préoccupation pour l'ensemble des publics qui, pour lesquels, parfois, il y a une barrière qui leur permet pas toujours facilement d'avoir accès aux activités puis aux équipements culturels. Alors, pour nous, ça fait partie des préoccupations, oui, dans le cadre de ce projet que vous mentionnez, Chute Regardée. L'an dernier, et en fait, c'est un projet qui se poursuit, on aura l'occasion d'en discuter plus tard, on a un projet qui s'appelle « Le peuple de l'œil », qui est une exposition avec des gens, des organismes de la communauté sourde. Alors donc, et pour qui l'accès au musée, ce n'est pas évident. Alors donc, on discute avec ces gens-là sur les meilleures façons d'améliorer notre accueil, d'améliorer nos présentations, et on va faire une exposition l'an prochain qui va porter sur l'histoire de la communauté sourde et sur les enjeux liés à cette communauté-là. Et évidemment, ben, comme je le disais, un des très beaux exemples, c'est celui qui commence la semaine prochaine, c'est D'un œil différent.
D'un œil différent, dont on va parler plus en détail après cette petite pause musicale. Je vous rappelle mes invités, M. René Binette du musée, de l'Écomusée du Fiermonde, et Geneviève Guibeault du comité organisateur de l'événement du festival. Moi, je crois qu'on peut le renommer comme ça, du festival D'un œil différent. À tout de suite.
Qui me dit des mots que je veux entendre pour cacher ses défauts. Il sait toujours quoi me dire pour pouvoir me garder, même s'il doit mentir. Cacher ce défaut.
Gabrielle Goulet avec sa pièce « Pas plus que ça » tirée de son album « Juste toi » paru en 2016. Une découverte pour moi ce matin, c'était la première fois que j'entendais cette pièce. Donc, on va surveiller l'évolution de l'artiste. Chaque semaine, l'équipe de Canal M souligne le travail exemplaire d'un individu ou d'un organisme se démarquant par une initiative favorisant la participation sociale des personnes handicapées. Cette semaine, c'est ce partenariat entre l'Écomusée du Fiermonde et l'événement culturel annuel d'un œil différent qu'on souhaitait mettre en évidence. On trouve que c'est justement une collaboration précieuse. Et pour vous, Geneviève Guibeault, qui êtes du comité organisateur de l'événement, on peut dire que ça allait de soi de faire un partenariat comme tel avec l'Écomusée du Fiermonde.
Ça allait de soi. Ça va de soi maintenant?
Oui!
Ça va de soi maintenant.
Peut-être pas la première année.
La première année, on n'était pas certain parce que, on n'était pas habitué d'abord. On allait de salle d'exposition en salle d'exposition. Puis à un moment donné, on a cogné à la porte de l'Écomusée en se disant, bon, peut-être que ça ne sera pas possible. Mais finalement, on s'est retrouvés là, puis on a trouvé ça extraordinaire. L'accueil a été vraiment chaleureux. L'accueil a été très adapté. Quand on parle d'intégration, on ne parle pas seulement d'adaptation physique, on parle aussi d'attitude. Puis l'attitude de l'Écomusée a été vraiment encourageante pour nos artistes.
Justement, parce que c'est la 11e édition d'Un œil différent, mais ça fait depuis 2009 que vous êtes en fait en résidence à l'Écomusée du Fiermonde. On va revenir sur l'histoire et la raison d'être d'Un œil différent.
Ça existe depuis, c'est la 11e année, donc au début, il y avait des ateliers qui étaient donnés dans divers organismes en déficience intellectuelle ou en trouble du spectre de l'autisme. Et on utilisait l'art comme outil de réadaptation. On s'en servait pour faire des apprentissages, pour apprendre des comportements. Puis on a réalisé qu'il y avait des gens, d'abord que ça marchait très bien, que ça donnait de très bons résultats, et ensuite qu'il y avait des gens parmi les participants qui avaient des talents particuliers. Puis on s'est dit, il faut absolument que ça qu'on monte ça. On ne peut pas garder ça entre nos murs puis montrer ça juste aux parents puis aux intervenants autour. Il faut que le grand public soit conscient qu'il y a des vrais artistes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
Et justement, parce que certaines œuvres qui sont issues d'ateliers d'art-thérapie, vous l'évoquiez un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est près de 200 artistes, en fait, qui font partie de cette 11e édition, plusieurs en art visuel. Et on a ce désir de mêler les artistes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme avec des artistes qui ne sont pas en situation d'handicap. Comment ça se passe, ce processus de sélection des autres artistes?
Mais d'abord, il y a des artistes qui nous suivent déjà depuis le début. Depuis la deuxième année, je pense, de données différentes, on a commencé à inviter des artistes qui n'avaient pas de déficience intellectuelle ou de troubles du spectre de l'autisme. On a commencé avec des étudiants en art de l'université. Puis après ça, ils sont venus l'année d'après, puis de plus en plus, il y a eu de gens qui se sont greffés à nous comme de bouche à oreille. Là. On n'a pas fait une grande publicité, mais on a toujours des gens qui se bousculent à la porte pour venir, à donner un œil différent, parce que les gens veulent venir, veulent exposer avec nous, veulent entrer en contact aussi avec les artistes qui ont une déficience intellectuelle. On a maintenant un réseau qui amène son réseau aussi. Ça fait partie un peu des conditions de notre sélection. On dit aux gens, vous autres, vous êtes des artistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle, bien alors, vous amenez votre réseau. Vous amenez des gens qui vont venir voir, qui vont venir parler avec nos artistes de nos ateliers pour les connaître, pour les faire connaître, dans le fond.
C'est vraiment un formidable exemple d'inclusion, finalement, vraiment d'avoir les deux, de ne pas savoir en tant que visiteur qui la condition de l'artiste. Mm-hmm. Donc, on laisse la situation d'handicap derrière, on se concentre uniquement sur l'œuvre en tant que telle. Il y a aussi d'autres activités, à la fois des activités qui se passent à l'écomusée, mais aussi des activités à l'extérieur du musée.
Oui, un peu comme on disait, comme un festival. Il y a des activités, la majorité se déroule à l'écomusée, mais on a aussi un partenariat avec l'UQAM cette année. On a une activité qui va se dérouler là-bas, qui va être une présentation en direct, une mini-exposition. Puis il y a aussi le spectacle avec Pas de cœur de Magouane et les orteils qui se déroule au sein d'un œil différent, mais qui ne se passe pas à l'écomusée.
Mais qui est une troupe de danse.
Oui, c'est ça.
Et il y a aussi quelques activités particulières. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour parler de la remise du prix Jeannine Suto.
Les prix Jeannine Suto sont remis lors de la soirée d'ouverture. La soirée d'ouverture, je dirais que c'est le moment fort de Donner Indifférent parce qu'on attend autour de 450 personnes mercredi prochain, le 2 mars. Et lors de cette soirée-là, ben, c'est le vernissage de l'exposition en même temps et la remise des prix Jeannine Suto qui se déroule pendant la soirée.
Et en fait, c'est un prix qui souligne quoi exactement?
Mais en fait, il y a deux prix, Jeannine Suto. C'est pour ça qu'on dit la remise des prix.
Des prix.
Parce qu'il y en a un qui est remis à un artiste qui s'est démarqué. Un artiste qui a un handicap, soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, qui s'est démarqué par sa participation sociale, par son rayonnement dans la communauté, et aussi à un projet ou un organisme qui se démarque, lui, pour justement les efforts qu'il fait pour intégrer les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
Donc, on y va vraiment on célèbre en fait ces deux aspects d'inclusion sociale. Est-ce que les œuvres qui sont exposées sur place, on parle de toutes les œuvres qui feront partie de cette 11e édition, sont-elles à vendre? Est-ce qu'on peut acquérir
certaines
œuvres?
La plupart sont à vendre. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas à vendre.
Il y en a quelques-unes.
La plupart sont à vendre, oui.
Et est-ce que les fonds reviennent à l'artiste directement?
En partie. Parce que chaque organisme qui expose, c'est un petit peu plus compliqué, chaque organisme qui expose a sa procédure. Donc, si on vend une œuvre, bien là, chaque organisme, mettons, la plupart du temps, il y a presque la moitié qui revient à l'artiste, puis l'autre qui va à l'organisme pour financer bon, ses activités, le matériel, etc. Et tous les artistes invités qui sont qui viennent pas des organismes du comité organisateur, eux, le revenu sont remis totalement à eux.
Justement, parce qu'il faut le dire, il y a un comité organisateur, donc c'est plusieurs organismes qui font partie d'un œil différent.
Oui, on est plusieurs. On est cinq organismes. Il y a l'Écomusée du Fiermont, qui est un partenaire important. On a SOS, sans oublier Sourire. Il y a les Compagnons de Montréal, le parrainage civique Les Marronniers, la gang à Rambrou et le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal, installation CRD Tête de Montréal.
C'est complet.
Oui.
C'est complet. Je voyais que l'année dernière, l'événement était en difficulté financière, était menacé. Est-ce que ça va mieux en 2016?
Honnêtement, pas vraiment.
Bon, c'est souvent le nerf de la guerre. On parle aussi même de peut-être que vous pouvez répondre, M. Binette aussi, pour assurer la pérennité de ce type d'événement-là. À la fois, ça prend le diffuseur qui accueille, ça prend aussi les artistes, un soutien pour ces artistes-là. C'est souvent le nerf de la guerre, le financement, et d'arriver à maintenir ce genre d'activité. Comment ça se passe en ce moment?
Bien, je dirais qu'on a des subventions, des dons de fondations. Le plus gros partenaire cette année, c'est la fondation DITSA de Montréal. Mais on ramasse les sous, on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas assez. Il y a beaucoup, il y a des centaines d'heures de bénévolat qui sont offertes par le comité, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Fait qu'on est honnêtement très sérieusement à la recherche de fonds qui serait récurrent d'année en année parce que c'est essoufflant un petit peu pour le personnel.
Puis justement, M. Binette, le partenariat comme celui avec l'Écomusée du Fiermonde, c'est là qu'on voit concrètement que ça aide à maintenir des initiatives en place.
Oui, mais en même temps, la situation financière des organismes culturels comme l'Écomusée, bon, je dirais, nous, on a des budgets qui nous permettent, bien sûr, de garder l'édifice. Gérer un édifice, là, c'est des coûts. Et nous, on est en mesure de continuer à accueillir l'événement dans les prochaines années, sauf que l'organisation de l'événement, l'organisation de l'exposition, l'ensemble de ce dont on vient de parler, voici ce pourquoi des sous supplémentaires pour aider, non pas l'écomusée dans ce cas-ci, mais pour aider le projet d'un œil différent, c'est quelque chose d'important. Et je me permets une petite remarque. Tout à l'heure, vous nous parliez du nom du Fier Monde, d'un œil différent, quel joli nom. Et j'inviterai tous les visiteurs, tout le public à venir jeter un regard différent sur différents publics et sur les œuvres qui sont présentées.
Merci beaucoup. Ce sera notre mot de la fin. On met le 2 mars à notre agenda pour le vernissage de ce festival, le coup d'envoi du festival d'un œil différent. Je remercie mes invités, Geneviève Guibeault du comité organisateur d'un œil différent et René Binette, directeur de l'écomusée du Fier Monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.